Pas de panique, pas de panique. Je sais, c'est volontaire. Ce matin, j'aimerais continuer dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Ça fait longtemps qu'on n'a pas continué dans cette épître de Paul, et nous sommes au verset 17. Et je vais lire dans les débuts de ce passage, donc Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Nous avons vu que l'épître aux Éphésiens a deux grandes parties, les chapitres 1 à 3. C'est la partie plus théologique, tout ce que nous avons en Jésus-Christ lorsque nous devenons croyants. Tout ce que Jésus-Christ nous apporte quand on l'accepte dans sa vie. Et à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin au chapitre 6, eh bien, il est développé tout ce que nous devons faire en conséquence. Le début dit « marcher d'une manière digne de votre salut ». Et donc, comment marcher d'une manière digne maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que Christ et dans notre vie. Et dans le début du chapitre 4, on avait vu l'importance de l'unité dans l'Église, avoir un même cœur, une même pensée, une même vision. Et là, eh bien, il nous parle de choses encore plus pratiques, comment être, l'importance d'être différent du monde et de la vie passée, d'avoir une nouvelle vie. Au verset 17, il dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens ». Celui ou celle qui croit en Christ est une nouvelle créature. Lorsqu'on devient chrétien, ce n'est pas que notre vie s'améliore ou qu'on change de religion. Le mot conversion est souvent utilisé pour changer de religion. Ah, vous êtes converti au baptiste. C'est-à-dire, vous étiez catholique, musulman ou quoi que ce soit, puis vous avez adopté la religion baptiste. Bien, sachez qu'on ne prêche jamais ça. On ne dit pas aux gens « convertissez-vous au baptisme ». On dit « convertissez-vous à Dieu, à Jésus-Christ ». Et le mot « se convertir », ça veut dire changer de direction, faire demi-tour. Et Dieu nous appelle à faire demi-tour dans notre vie, à quitter la vie ancienne de péché pour aller dans la volonté de Dieu. C'est ça la vraie conversion. Et quand on devient chrétien, on est une nouvelle personne parce qu'on est né ou rené d'en haut. C'est Jésus qui a dit, ce grand chef religieux Nicodème, il lui a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau ou naître d'en haut. Il faut que Dieu te fasse renaître. Donc ce n'est pas une religion, ce n'est pas des œuvres ou des actions qui changent, c'est le cœur qui est renouvelé, transformé, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui vient en nous. Et maintenant qu'on connaît Dieu, maintenant qu'on a le Saint-Esprit, on ne doit plus marcher comme avant. Avant, on marchait dans les ténèbres spirituelles. Maintenant qu'on a la lumière de Christ, on doit marcher en nouveauté de vie. Et quelles étaient quelle était la vie que nous avions quand nous étions païens? Eh bien, il fait toute une liste ici, il parle de la vanité, du vide de leurs pensées. Quand Dieu n'est pas dans l'équation, tous nos raisonnements sont vides. Ils tombent à plat parce qu'on raisonne sans aucune direction. Dieu donne une direction à nos pensées, à nos philosophies, à nos raisonnements. Parce qu'il est le Créateur, il est l'absolue vérité. Et nos pensées sont vides quand il n'y a pas Dieu. Et nos cœurs sont vides aussi. Ils disent, l'intelligence obscurcie, on est dans les ténèbres, on tâtonne, on cherche des réponses, on dit, mais pourquoi ça c'est bien, pourquoi ça c'est mauvais? Regardez comme aujourd'hui, on est dans une crise d'identité. Énormément un certain nombre de personnes, on en parle beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça, mais ont des crises d'identité sexuelle. Ils disent, est-ce que je suis un homme ou une femme? Un garçon ou une fille? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Je pense aussi aux jeunes qui doivent chercher une carrière. Dans quel domaine je vais me lancer? Et il y a une perte de repères et d'identité parce qu'il n'y a pas Dieu pour donner une direction. Il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire, la vie de Dieu leur est inconnue. La relation avec Dieu, c'est quelque chose qui les dépasse. Il y a beaucoup de gens qui peuvent parler de Dieu, de la religion, de la Bible, mais sans connaître Dieu. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et en fait, ce dont ils parlent, c'est des choses théoriques, philosophiques, mais ils ne savent pas ce que c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et puis, il dit, à cause de l'ignorance et de l'endurcissement. Souvent, on ne connaît pas Dieu, soit par ignorance, soit par endurcissement, soit avec les deux. On ne connaît pas Dieu parce qu'on n'a jamais entendu la bonne nouvelle, telle qu'elle est dite dans l'Évangile, dans la Bible. On a entendu parler des religions, qu'il faut être un bon chrétien, qu'il faut faire ceci, être baptisé, ou je ne sais pas. Mais on ne vous a pas dit comment être réconcilié avec Dieu. C'est ça qui est tragique en France. Très peu de gens savent qu'on peut être réconcilié, pardonné par Dieu. Ils pensent que Dieu veut les punir à tout prix et qu'il faut surtout le fuir. Et puis l'endurcissement, c'est lorsque Dieu se révèle un peu, lorsque un chrétien parle de l'Évangile, de s'endurcir, de dire « non, ça j'en veux pas ». Et beaucoup de gens sont éloignés, sont totalement étrangers à Dieu parce qu'ils s'endurcissent chaque fois que Dieu leur parle. Et puis, il parle aussi de cette perte de tout sentiment. En fait, littéralement, il est en train de dire qu'ils ont perdu toute sensibilité au mal. Leur conscience devient insensible. Tuer, blesser, frapper, mentir, voler, tricher, coucher, ça n'a plus aucun problème. Nous avons un exemple malheureux avec notre président de la République, qui a une vie aux yeux de la Bible et aux yeux de Dieu qui n'est pas conforme à sa volonté. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est présenté comme quelque chose de bien ou de personnel. Il a raison, il fait ce qu'il veut, c'est un homme, il peut aller avec qui il veut. Et ça, c'est les païens. Les païens vivent dans ce système où tu fais ce qui te plaît. Mais le résultat, c'est beaucoup de trahison, de souffrance. Je ne voudrais pas être à la place de la première dame, ni de la première. Vous vous sentez trahi, vous ne sentez rien. On a l'impression je passe à autre chose. Allez, bye bye. Et c'est ça, ce sentiment d'amertume et de vide que laisse le paganisme, cette vie sans Dieu. Ils ont perdu toute sensibilité. Et puis, il va plus loin, il dit, se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Impureté plus cupidité. C'est ce qui est résumé dans le dernier film de Scorsese, Le Loup de Wall Street. N'allez surtout pas le voir. Il y a des spectateurs non chrétiens, qui ont été le voir. Ils ont dit, je n'ai pas pu rester jusqu'au bout, j'ai dû sortir. À la moitié, tellement c'était insupportable de vices, de débauche, de gros mots, de vulgarité, c'était insupportable. Et ça, c'est le paganisme, c'est les résultats normaux et c'est tout à fait normal dans le paganisme. Le vice et l'argent. Et il n'y a pas à s'étonner, c'est le cours normal des choses quand on n'a pas Dieu dans sa vie. L'immoralité et la cupidité, l'avarice, la rapacité. Mais attention, si nous sommes chrétiens, c'est parce que le Seigneur nous a graciés. C'est parce que le Seigneur nous a pardonné nos péchés. Nous devons nous rappeler que nous étions comme ça, comme ces païens. J'étais vide. J'étais aveugle. J'étais étranger à la vie de Dieu. J'étais ignorant. J'étais endurci. J'avais perdu ma sensibilité au mal. Je me livrais de plus en plus au vice. J'étais tout ça. Mais le Seigneur m'a touché. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, Paul fait une description des membres de l'Église de Corinthe. Et voilà ce qu'ils étaient. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ceux qui emmènent qui font des raptes hein, ou des kidnappings, n'hériteront le royaume de Dieu. Donc c'est très solennel. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été sanctifiés, lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, pardonnés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions tous dans le péché, dans le vice, dans l'éloignement, l'endurcissement, mais le Seigneur nous a touchés et on a accepté son salut, son pardon. Mais si on l'accepte pas, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Je suis terrifié quand je vois certains enterrements d'artistes qui ont vécu dans la débauche pour certains et on dit « Ah, il est dans le paradis des acteurs, le paradis des musiciens ». Ça, c'est pour se rassurer, mais selon la parole de Dieu, il n'est pas dans le paradis du tout, s'il ne s'est pas repenti de ses péchés. Et on est tous devant Dieu au même plan. Nous sommes tous pécheurs, dit la Bible, et on doit tous se repentir. Se repentir, ça ne veut pas dire pleurnicher sur ses fautes. Ça veut dire changer d'état d'esprit, de direction, là aussi, mais dans sa pensée. La repentance, c'est faire demi-tour dans son cœur et dire « Je ne veux plus vivre dans le péché, je veux vivre dans la direction de Dieu. Je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur. » Alors si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour qu'on continue dans notre ancienne vie. Il faut entrer dans la nouvelle vie. Désormais, nous devons être remplis de Dieu, remplis de sagesse, clairvoyants, purs, désintéressés. Et Jésus a toujours été clair, il nous sauve pour nous donner une nouvelle vie. Et il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, au verset 20 d'Éphésiens chapitre 4. Et c'est intéressant, on pourrait croire qu'il fait une faute de grammaire. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris sur le Christ. Non, il ne dit pas ça. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est que nous n'apprenons pas des choses sur Jésus-Christ. On ne fait pas des cours de religion, voilà, ou des cours d'histoire. Nous apprenons la personne de Christ et à la connaître personnellement. Et si je connais personnellement Jésus-Christ, ça doit changer ma vie. Je dois être un nouvel homme, une nouvelle femme. Je ne dois plus être dans la convoitise de ce monde, mais je dois être dans la sobriété, la pureté, concentré sur ce qui est important, c'est-à-dire l'éternité, les choses éternelles, les choses spirituelles. Je ne dois pas être dans l'amour de l'argent, la quête folle de m'enrichir, parce que ça mène à toutes sortes de vices, mais je dois me rappeler que je suis venu nu et que je repartirai nu, et que l'argent qui m'est confié, les biens matériels qui me sont confiés comme une responsabilité par Dieu, à moi de bien les utiliser. La vraie richesse, c'est de connaître Dieu et d'aimer son prochain. Alors, il continue, il dit, maintenant il faut vous dépouiller de votre vieil homme et revêtir l'homme nouveau. » Voilà. Le vieil homme, le mot qu'il utilise pour vieux, là, ça veut dire usé, fichu. Votre vieil homme, votre homme usé. Qu'est-ce que c'est ce vieil homme dont il faut se dépouiller? C'est ma vie passée, sans Dieu. C'est-à-dire pas le temps que j'ai passé, le temps je pourrais jamais l'effacer évidemment, mais c'est les principes de cette vie passée. Comment je vivais? Je vivais dans l'égoïsme, dans l'orgueil. De temps en temps, je faisais une bonne chose, mais la plupart de temps, c'était moi, moi, moi. Et je m'éloignais de plus en plus de la vérité, de la justice. Je m'enfonçais de plus en plus dans les ténèbres. Et ça, c'est fini maintenant que je suis sauvé. Mais quand on est nouveau chrétien, on a toujours la vieille veste de sa vie passée. Et ici, le message est tout simple. Enlevez votre vieille veste qui est fichue, qui est usée. On n'a plus besoin. Terminé. Et revêtez, il dit, l'homme nouveau, qui lui vient de Dieu, vient de Christ. Et ça veut dire quoi? Enlever la vieille veste et remettre et mettre la nouvelle veste. Ça veut dire enlever les vieilles habitudes, les vieux réflexes du péché, de l'égoïsme et tout ça, et prendre les nouveaux réflexes, avoir des nouvelles habitudes qui viennent de Dieu, pas de moi, qui viennent de Dieu, pas de la religion, qui viennent de Dieu, pas de l'Église, qui viennent de Dieu. Et il donne ici des exemples. Il dit « Renoncez aux mensonges », verset 25. Notre frère nous a dit avant de connaître Christ, il mentait à tout le monde. Il y a des gens comme ça qui ne cessent pas de mentir. Et plus ils mentent, plus ils s'enfoncent dans leurs mensonges, parce qu'ils mentent pour attraper le mensonge quand ils sont pris. Et c'est quelque chose d'horrible, l'esclavage du mensonge. Aujourd'hui, c'est presque encouragé. On dit, tu sais, le mensonge, c'est utile. C'est bien pratique. Mais ça fait beaucoup de mal, beaucoup de dégâts dans l'âme et chez les autres. Et ici, en fait, on voit que ce qu'il cite, le mensonge, la colère, et tout cela, ce sont des accès au diable. Le nouveau chrétien ne doit plus laisser les accès au diable, il doit couper les ponts. Mais avant de parler de ça, j'aimerais donner une illustration de cette nouvelle nature, de cette nouvelle veste. C'est que le chrétien doit être un papillon. C'est une magnifique image de la nature que Dieu nous a laissée. Le papillon est un insecte tout à fait curieux, qui est d'abord une sorte de chenille, et qui, à un certain moment, se met dans un cocon. Et on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il ne va pas renaître, il est déjà né, c'est déjà une chenille. Eh bien oui, il va renaître. Il se met dans un cocon, et au bout d'un certain temps, le cocon craque de lui-même, et il n'a plus de valeur. Et qu'est-ce qui sort de ce cocon? Un papillon, un être totalement différent. Il est à la fois pareil et différent. La chenille est lourde, maladroite, pas très belle. Il faut reconnaître que les chenilles, ce n'est pas les plus belles choses sur la terre. Tandis qu'un papillon, c'est tellement léger, ça virevolte, ça a des couleurs fantastiques. C'est rien à voir, la chenille, le papillon. Et c'est, je pense que Dieu a mis ça comme une image, à la fois de la résurrection intérieure et de la future résurrection de nos corps. C'est que le chrétien doit quitter son cocon du passé. C'est fini, je ne suis plus une chenille du péché, je suis un papillon du Seigneur. Et il y a des chrétiens qui restent dans le cocon. Le cocon ne sert plus à rien. Ils ont des ailes, les ailes du Saint-Esprit, si on peut dire, comme image. Ils n'ont rien à faire dans le cocon. Le papillon, il faut qu'il vole, il faut qu'il s'en aille, qu'il aille butiner pour se nourrir. Et puis aussi, pour... polliniser voilà d'autres plantes. Il a un rôle à jouer, le papillon. Mais la chenille, elle est là et tout ce qu'elle fait, c'est manger. Moi. Il faut quitter le cocon de ma vie passée. Et il y a des personnes qui ont fait une profession de foi envers Dieu. Ils ont dit, oui, je veux croire, je veux le suivre. Mais ils ne se sont pas vraiment repentis. C'est-à-dire, ils veulent ajouter Christ à leur vie. Ils veulent que Christ les garde, les protège, les bénisse, les guérisse. Mais ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas reconnu que leur vie passée est mauvaise, est diabolique. Même si on ne croit pas au diable, notre vie est diabolique sans Dieu. parce qu'elle est dans le mensonge, dans l'égoïsme, dans tout ce qui vient du diable. Et la repentance, c'est de regarder ces fonctionnements de vie, ce cœur-là, passer et dire « c'est pourri ». C'est pourri, je suis pourri au fond de moi. C'est ce que dit le prophète Jérémie au chapitre 17 de son livre. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et il savait de quoi il parlait, Jérémie. Il en avait vu des choses tortueuses dans sa vie, dans son ministère de prophète. Et le mot là, le cœur de l'homme est incurable et tortueux. Tant qu'on n'a pas fait ce constat sur notre vie, on ne peut pas devenir une nouvelle créature. On ne peut pas entrer dans le salut. On peut s'efforcer d'être chrétien en disant je vais prendre un costume. Quel est le costume des chrétiens là? Comment ils s'habillent? Comment ils se comportent? Alors je vois qu'ils ne disent plus de gros mots. Alors je vais essayer de plus dire des gros mots. Je vois qu'ils s'habillent bien le dimanche. Alors je vais m'habiller bien le dimanche. Je vois qu'ils ont une Bible. Alors je vais acheter une Bible. Je vois qu'ils prient, qu'ils chantent. Alors je vais prier. Mais ça ne fait pas de vous un chrétien. Un chrétien, il est né d'en haut, de Dieu. Et un chrétien, il commence par se repentir, de dire « Seigneur, je n'en peux plus, je suis pécheur, je suis incurable, j'ai besoin que tu viennes me sauver. » Tant qu'on ne fait pas ce constat de faillite, on ne peut pas être sauvé. Pour qu'une entreprise en faillite, enfin en difficulté, soit sauvée, souvent il faut qu'elle déclare une faillite. Tant qu'elle essaie de s'en sortir, elle n'arrive pas à rembourser et en fait elle accumule des dettes et des dettes et des dettes. Mais le jour où elle dit « Bon, nous sommes en faillite. » Pouf, d'accord. Et là, le tribunal de commerce, où il peut y avoir des repreneurs, il peut se passer des choses, on peut même effacer la dette des fois. Et c'est vraiment ce qui se passe dans la vie chrétienne. « Seigneur, je suis une faillite spirituelle. Viens me racheter. » Et Christ est le Rédempteur. Il nous rachète par son sang et par sa mort et sa vie. Et il fait de nous une nouvelle créature. Et là, il nous donne un nouveau costume. Est-ce que vous vous rappelez la parabole des noces que Jésus a racontée, que un roi avait fait un grand mariage pour son fils et il a invité les gens et tout le monde dit « Oh, j'ai autre chose à faire, je ne peux pas venir. » Alors pour le roi, c'était très vexant et très décevant que la plupart des gens de sa cour, de son royaume, ne voulaient pas aller au mariage de son fils. Alors il a dit aux serviteurs « Allez dans les chemins. Prenez n'importe qui, dites-lui « Tu es invité au mariage. » Et dans les chemins, ça voulait dire « Chez les gens pauvres. » On a commencé avec les nobles et on va voir la population la plus pauvre. Et eux, ils sont ravis. Ils trouvent ça merveilleux. Moi, je suis invité au mariage du fils du roi. Waouh ! Oui, je veux y aller. Alors, ils y vont, ils courent. Mais il dit, il y en a un qui est venu et qui n'a pas accepté la robe de mariage qu'on donne aux invités. Parce qu'à cette époque-là, les invités recevaient un vêtement, une veste, quelque chose, pour entrer, surtout s'ils étaient pauvres. On ne voulait pas qu'ils entrent avec des haillons. Donc on les revêtait d'un vêtement que l'ordonnateur du mariage avait préparé. Et il y en a un qui dit « Non, moi je veux rentrer tel que je suis avec mes haillons. Je ne veux pas recevoir une nouvelle robe. » Et Jésus dit dans cette parabole, cet homme-là a été refusé. On l'a mis dehors. Alors on peut dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ?» C'est que Dieu est venu. Il a envoyé son fils et ceux qui étaient le plus proches de lui l'ont refusé. Les gens religieux la plupart du temps. Qui sont ceux qui ont crucifié Jésus? C'est les Romains, mais sous l'impulsion de qui? Des chefs religieux. Ceux-là ont dit « Oh, j'ai autre chose à faire, moi j'ai ma religion, il faut que je m'occupe de mon temple, de mes exercices, etc. J'ai pas le Messie, Dieu, tout ça, bon, on verra plus tard. Moi j'ai ma religion à m'occuper. » Et du coup, Dieu a envoyé aussi son message vers les plus pauvres et les perdus surtout, et les païens, les non-juifs aussi. Et eux, ils étaient ravis d'entendre cette nouvelle. Moi, je peux être pardonné et découvrir le Créateur. Mais il y en a qui voulaient rentrer avec leur propre justice. Et Dieu dit non, pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois être recouvert de la justice de Christ. Ça veut dire que le jour où nous allons mourir et nous serons jugés, Dieu ne va pas dire « Est-ce que tu as fait des bonnes actions ? Combien tu as fait de bonnes actions ? » ?»« Ah ben j'en ai fait 37 227. » D'accord, c'est bien. « Et des mauvaises actions ?»« Oh, j'ai dû en faire quelques-unes, mais pas beaucoup. » D'accord, ça c'est tes chiffres à toi. Maintenant on va prendre les chiffres de la police, comme dans les manifestations. les chiffres de la justice de Dieu. Des bonnes actions, tu en as fait 3, et des mauvaises actions, tu en as fait une infinité. Hein? Parce que devant Dieu, ce que nous croyons être une bonne action n'est pas toujours une bonne action, parce qu'elle peut avoir des mauvais motifs. Et nous faisons beaucoup de péchés, beaucoup plus d'offenses envers Dieu qu'on imagine. C'est pour ça qu'on ne peut pas entrer au ciel en disant « Regarde comme je suis merveilleux, Seigneur !» Non, pour entrer, il faut dire « Regarde, Seigneur, je suis pécheur, mais j'ai accepté Christ. Il est ma justice, il est mon salut. Je ne compte pas sur mes œuvres, je ne compte pas sur mes sacrements, sur le baptême ou quoi que ce soit pour entrer au ciel. Je compte uniquement sur Christ et c'est le message du Nouveau Testament. Maintenant que je suis comme ça, un papillon, je dois me comporter en papillon. Je ne dois plus laisser les ponts d'accès au diable. Le diable veut que je mente parce qu'il est menteur dès le commencement. Alors je vais arrêter le mensonge. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire les 4 vérités à tout le monde qu'on rencontre. Il y en a qui vont dans l'autre sens. Hein. Parce que ce serait blessant et puis ce que je pense n'est pas toujours juste ou bon. Mais ça veut dire que je ne dois pas cacher la vérité, je dois dire la vérité, notamment la vérité biblique, la vérité de Dieu. Et puis, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La Bible n'interdit pas de se mettre en colère, mais elle dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Je dois vous dire, c'est un exercice très difficile de ne pas pécher quand on est en colère. Il faut vraiment être très maître de soi. C'est un penseur non chrétien hein, qui a parlé de la colère. Il s'agit, pardon, il faut que je retrouve ma citation d'Aristote. « Tout le monde peut se mettre en colère. Mais être en colère contre la bonne personne, au meilleur degré, au meilleur moment, pour le meilleur motif et de la meilleure façon, ça, c'est pas facile. Hein? » C'est vrai que se mettre en colère, ça peut arriver à tout le monde, pour l'injustice ou pour des choses qui arrivent. Mais Dieu dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, ne gardez pas de rancune, d'amertume. C'est particulièrement vrai dans les couples. Les couples qui durent longtemps dans l'amour sont ceux qui se pardonnent avant de se coucher. Et plus on laisse pourrir l'amertume, hein, plus ça détruit les vies et les relations. Et puis, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, verset 28, le vol. Satan est aussi un voleur, un menteur, un tricheur. Le chrétien doit travailler, faire ce qui est bien pour avoir donné à celui qui est dans le besoin, dit la parole de Dieu. Également, dans sa bouche, verset 29, il ne doit sortir aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La langue reste toujours le point difficile pour nous. La Bible dit « Celui qui ne pèche pas avec sa langue est parfait. » Et notre langue est capable de faire beaucoup de mal. Et nous devons, en tant que chrétiens, avoir une nouvelle façon de parler aux autres. Une nouvelle façon de réagir dans les circonstances où on se met en colère d'habitude. Une nouvelle façon de voir la vie, de travailler pour vivre, de ne pas compter tout le temps sur l'État. Tout ça, c'est une nouvelle façon de voir et c'est Dieu qui le fait dans notre vie. Ce n'est pas à nous de nous changer, c'est Dieu qui nous donne des nouveaux réflexes, des nouveaux désirs, une nouvelle façon de concevoir l'existence, des nouveaux principes qui viennent de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la Bible aussi et qu'il faut la lire en scrutant, en disant « Seigneur, que veux-tu me dire? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie ?» Voilà ce que le Seigneur nous demande d'être des papillons qui se comportent en papillons, qui ne marchent plus comme avant, qui ont enlevé leurs mauvaises habitudes, leurs mauvais réflexes et qui ont revêtu Christ, leur nouvelle vie. Leur nouvelle justice. Et c'est comme ça qu'on devient un saint, au sens biblique. Un saint n'est pas quelqu'un qui a une auréole qui flotte au-dessus de sa tête. Un saint, c'est un chrétien qui est rempli de Jésus-Christ, qui manifeste tout le caractère de Christ, qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est impossible pour les efforts humains, mais c'est tout à fait faisable par le Saint-Esprit, par la foi. Seigneur, change-moi, change mes réactions, change mes mauvaises pensées. Seigneur, vraiment, donne-moi de vivre cette nouvelle vie. Et peut-être que vous n'avez pas cette nouvelle vie, que vous faites des efforts terribles pour essayer de ressembler aux chrétiens et vous êtes en échec permanent. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Il y avait une fois un évangéliste qui prêchait dans une église anglicane aux États-Unis. Il avait été invité pour prêcher un dimanche matin et arrive la fin du message et il fait un appel et il y avait le pasteur et les diacres qui se tenaient derrière lui comme il faisait chaque dimanche. Et il a lancé un appel en disant « Si vous ne vous êtes jamais vraiment repenti, tout son message était là-dessus, si vous n'êtes jamais venu à Christ sincèrement de tout cœur, c'est le moment de venir. Qui veut venir ce matin ?» Alors il y a quelques personnes qui s'avancent et puis à la stupéfaction de tous, d'un seul coup, le diacre qui était derrière, se met devant. Et moi aussi, je veux venir. Alors, tout le monde est choqué. Toi, mais on pensait que tu es un chrétien depuis toujours. Va, t'es diacre. Mais cette personne faisait des efforts. Ce n'était pas quelqu'un de menteur qui cherchait à tromper, mais il n'avait pas saisi, encore une fois, la nouvelle naissance. Et ce jour-là, il a vraiment reçu Jésus-Christ dans sa vie et il a vu les transformations se faire presque naturellement. Il dit, maintenant, je suis vraiment un enfant de Dieu. Je ne fais pas des efforts pour l'être. Je le suis. La vie vient de l'intérieur. Alors si vous êtes dans ce cas aussi, c'est le moment de vous tourner vers le Seigneur. Et c'est ce qu'on va faire en priant, s'inclinant dans la prière. Après quoi, on va chanter « Viens au Père qui t'appelle ». Seigneur, quelle grâce tu as eue envers nous parce que nous étions tellement sales, tellement pécheurs, tellement coupables, tellement ignorants, tellement endurcis. Et tu nous as aimés quand même. Et tu nous as cherchés. Tu as envoyé ton Fils pour nous. Tu nous as rachetés par ton sang, par ta mort. Et tu nous as offert la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette vie.